Europe Soir Weekend, Raphaël Delvolvé vous informe sur Europe 1.
Les vendredis thématiques, votre nouveau rendez-vous cette saison sur Europe 1. Aujourd'hui, le wokisme. Nous parlerons de cancel culture vers 19h15 avec l'universitaire Laure Murat. Mais avant, le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Europe 1, il est 19h. L'imam Iqi Houssen arrêté en Belgique après un mois de cavale, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen.
L'actualité ce soir, c'est aussi Vladimir Poutine qui signe l'annexion de 4 territoires ukrainiens. Il appelle l'Ukraine à cesser les hostilités. Au passage, s'en prend à ce qu'il appelle le système néocolonial de l'Occident. Récit et décryptage dans ce journal et réponse du président Zelensky qui va demander l'adhésion accélérée à l'OTAN. Et puis trois ministres au chevet de la Guyane, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal. Ils s'apprêtent à participer à des assises de la sécurité.
La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Eh bien, pas bien folichonne pour ce week-end, avec un temps automnal, humide, couvert et des températures globalement proches des normales de saison.
On vous retrouve tout à l'heure pour une météo complète. La cavale de l'imam Iqi Houssen a pris fin.
Oui, recherché depuis le 30 août dernier, le prédicateur musulman a donc été arrêté en Belgique, Thibault.
Oui, Hassan Iqi Houssen a été retrouvé par les forces de l'ordre tout près de Mons, dans des circonstances que les autorités belges n'ont pas encore précisées. Mons, une ville très proche de la frontière française, à une vingtaine de kilomètres seulement. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé par la France. Le prédicateur fiché S est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine. L'imam de 58 ans avait pris la fuite le 28 août pour éviter son expulsion du territoire validé par le Conseil d'État. Sa propriété de Lourges près de Valenciennes avait été perquisitionnée pendant deux longues heures mais sans succès et il a tout de suite été suspecté d'avoir rejoint la Belgique. Finalement, la traque aura duré un mois.
Et maintenant Thibault, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien d'abord, c'est ce que souligne une source au gouvernement français, il va falloir attendre que la justice belge remette Hassan Iqi Houssen à la France. Une fois que ce sera fait, il sera placé dans un centre de rétention administratif pour une durée de 90 jours maximum. Pendant ce délai, il pourra être jugé pour s'être soustrait à la justice française. Parce que oui, en prenant la fuite, l'imam a commis un délit. Mais ce que souhaite avant tout le gouvernement, c'est l'expulser le plus rapidement possible. Il est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Mais pour le moment, eh bien, c'est impossible. Fin août, le Maroc a refusé de l'accueillir. Et selon nos informations, en ce moment même, des négociations sont en cours avec Rabat.
Thibault, sur cette arrestation de l'imam Iqi Houssen près de Mons en Belgique.
Les habitants de 4 territoires d'Ukraine deviennent nos citoyens pour toujours. Cette phrase de Vladimir Poutine résume à elle seule la teneur de son discours.
Oui, le président russe s'exprimait tout à l'heure dans l'immense salle Saint-Georges du Kremlin. Discours très attendu d'une quarantaine de minutes pour officialiser l'annexion des 4 régions de l'Est de l'Ukraine. Vous l'avez suivi pour nous, Wilfried de Villers. Quels sont les moments les plus marquants ?
Il y a d'abord la mise en scène. Vladimir Poutine applaudit dès son arrivée dans la salle face aux membres du gouvernement, mais aussi des députés, sénateurs et autres personnalités de l'élite russe. Le ton est victorieux, Vladimir Poutine le martèle dès le début de son discours. Les résultats des référendums d'annexion sont sans équivoque.
Nous signons la création de 4 nouvelles régions de la Fédération de Russie, car c'est la volonté de millions de personnes. Les habitants de Lugansk et Donetsk, Kherson et Zaporizhia deviennent nos citoyens pour toujours.
Dans la foulée, le président russe appelle l'Ukraine à cesser le combat. La suite, eh bien, c'est une longue charge contre l'Europe, contre les États-Unis, des néocolonialistes, des oppresseurs russophobes, dit-il. Les Occidentaux veulent, selon lui, piller les ressources de la Russie et ils pointent du doigt leurs valeurs.
L'Occident a toujours cherché à nous détruire, à disloquer notre État. Ils ne connaissent pas les valeurs morales. Est-ce que nous voulons ici qu'on propose à nos enfants des opérations de changement de sexe ? C'est inacceptable.
Vladimir Poutine termine son discours sous une nouvelle salve d'applaudissements, signe officiellement les décrets d'annexion, rejoint par les représentants pro-russes installés dans ces régions par Moscou. L'hymne national retentit avant une dernière image, Poutine et les dirigeants des territoires annexés se serrant les mains et criant victoire. Russie, Russie. Après le discours, les célébrations se sont poursuivies sur la place rouge. Elles sont d'ailleurs toujours en cours. Vladimir Poutine s'est adressé directement aux Russes tout à l'heure, souhaitant la bienvenue aux habitants des régions annexées.
Wilfried de Villers, Vladimir Poutine qui a donc été acclamé sur la place rouge. Des rémunérations auraient d'ailleurs été proposées à des ouvriers ou à des étudiants pour qu'ils viennent applaudir leur président. On va revenir sur le fond du discours avec vous, Nicolas Toneff, les annexions, les attaques contre l'Occident, la Grande Russie. Toutes les obsessions du président russe sont là.
Oui, c'est un discours 100% Poutine, la convocation de l'histoire millénaire entre Russie et Ukraine qui voudrait que les régions en guerre soient russes depuis toujours et que les années ukrainiennes ne soient qu'un accident de l'histoire qu'il corrige en quelque sorte en protégeant les populations d'un génocide. Il y a la rhétorique anti-occidentale, le colonialisme de l'Occident, économique et idéologique, des propos tenus à destination des pays potentiellement compréhensifs ou alliés. Et bien sûr de la population russe, hein, c'est important dans le contexte d'un peuple effrayé par la mobilisation militaire parce que c'est la réaffirmation de valeurs et d'arguments sociétaux sur la dégénérescence des mœurs à l'Ouest contre lesquelles il faut se défendre et cela marche très bien dans le pays. Et puis il y a le classique renversement de situation, l'Ukraine qui a agressé, Kiev qui doit cesser le feu et revenir à la table des négociations finalement. Le discours, en dehors de l'accusation contre l'Occident pour le sabotage des gazoducs et les annexions, ne nous apprend rien de neuf, sinon en creux que dorénavant, bombarder les nouvelles régions russes, c'est bombarder la Fédération de Russie et que le niveau d'incertitude quant à ces nouvelles conséquences en termes de réplique est total aujourd'hui.
Justement, Nicolas, vous parlez d'incertitude sur la suite. Écoutons cet extrait du discours de Vladimir Poutine.
Nous allons défendre nos terres par tous les moyens que nous avons. Défendre nos terres afin d'assurer la sécurité de notre peuple et notre liberté.
Nous allons défendre nos terres par tous les moyens. Cette phrase a un sens très fort, Louis Dragnel. Qu'est-ce que ça peut changer dans cette guerre en Ukraine ?
Eh bien, on peut parler d'une véritable bascule dans la guerre et sans doute la plus importante depuis le début du conflit. Parce que désormais, Vladimir Poutine considère les quatre nouvelles régions annexées à l'est de l'Ukraine comme territoire russe. Il a aussi prévenu qu'il allait les défendre. Une extension qui représente quand même près de 20% du territoire ukrainien. Concrètement, ça signifie qu'à partir de maintenant, toute tentative de l'armée ukrainienne de reconquérir ces quatre territoires annexés sera tout simplement considérée par le chef du Kremlin comme une déclaration de guerre à la Russie. Et c'est ce qui pourrait justifier une rupture totale de doctrine, c'est-à-dire la bascule de ce que Vladimir Poutine appelle une opération spéciale en une véritable guerre. La sémantique est capitale parce qu'à la différence de l'armée française par exemple, eh bien, l'arme nucléaire fait partie de la doctrine de guerre conventionnelle en Russie. Cela veut donc dire que désormais Vladimir Poutine n'aura plus aucun frein pour recourir au nucléaire dans le conflit.
Et ce soir, Louis, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, prévient que l'utilisation par la Russie de l'arme nucléaire en Ukraine aurait de graves conséquences. La Pologne a même déjà distribué des comprimés anti-radiation.
Et évidemment, de nombreuses réactions, avec tout d'abord celle du président ukrainien Zelensky.
Oui, il annonce d'abord que l'Ukraine va demander formellement son adhésion accélérée à l'OTAN et il répond ensuite à la demande de cesser le feu formulée par le président russe.
L'ensemble du territoire de notre pays sera libéré de cet ennemi. L'ennemi non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la vie elle-même, de l'humanité, du droit et de la vérité. Le président russe ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts pour un dialogue avec la Russie, mais pas avec ce président.
Volodymyr Zelensky, les États-Unis condamnent les annexions frauduleuses de territoires en Ukraine et vont imposer de nouvelles sanctions sévères contre la Russie. Condamnation également de l'Union européenne qui accuse Moscou de mettre en danger la sécurité mondiale. Enfin, Emmanuel Macron évoque une violation grave du droit international et il rappelle que la France se tient aux côtés de l'Ukraine.
Vous écoutez Europe 1, dans un instant la suite du journal avec la visite de trois ministres en Guyane. Des renforts de magistrats seront envoyés sur place alors que plus de 6000 dossiers sont en attente. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Raphaël Delvolvé.
La suite du journal d'Hélène Zelani, pas moins de trois ministres au chevet de la Guyane, région d'outre-mer en souffrance.
Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal qui participeront d'ailleurs ce soir à des assises de la sécurité. Délinquance, ultra-violence, immigration, trafic de drogue, la justice guyanaise est débordée. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Le ministre de la Justice annonce la création d'une brigade spéciale d'urgence au sein de la cour d'appel de Cayenne.
Oui, elle sera mise en place dès le mois de janvier prochain. 7 magistrats supplémentaires se relayeront tous les 6 mois. Un appel d'air pour cette juridiction qui cumule plus de 6000 dossiers en attente. Pas sûr pour autant que cela réponde totalement aux attentes des Guyanais qui espèrent d'abord plus de sécurité, notamment dans la rue, comme l'explique Crystal, une collégienne de 14 ans.
Oui, à des fois, il y a des problèmes de sécurité. Par exemple, si je sors avec une chaîne en or, j'ai peur de me faire braquer. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui nous mettent en sécurité en dehors, plus de personnes qui surveillent, qui vigilent un peu ce qui se passe pour éviter un peu tout ça.
Sur le papier, la Guyane est plutôt bien fournie en termes d'effectifs. 49 policiers et gendarmes pour 10 000 habitants contre 31 en métropole. Insuffisant malgré tout pour faire face au phénomène des mules, ces femmes chargées de transporter la drogue en ingérant des boulettes de cocaïne. Elles sont de plus en plus jeunes, comme le constate ce policier de la BAC de Cayenne.
Le phénomène mule en Guyane, on pourrait le comparer avec le phénomène des guetteurs qu'il y a en métropole. Des jeunes qui ne vont plus à l'école parce qu'ils gagnent tellement d'argent à faire le guet à l'entrée des cités. Et en jouant sur leur minorité. C'est atypique, le profil des mules, mais il y a beaucoup très 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 jeunes pour engorger le système.
Les Guyanais en sont conscients, la situation sécuritaire dépasse largement la seule action des forces de l'ordre. Ici, 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Guyane. La grève des salariés de Total Energy devait se terminer hier soir, mais ils ont décidé de la poursuivre. Pour demander des hausses de salaire, les grévistes préviennent que leur mouvement pourrait entraîner des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations-service.
Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport ce soir, le président du CIO, le Comité international olympique.
Oui, depuis le Vatican, Thomas Bach se félicite notamment de la bonne organisation des prochains Jeux de Paris 2024.
On fait 100% confiance aux autorités françaises en ce qui concerne la sécurité. On a eu beaucoup de conversations, de discussions avec tous les niveaux des autorités. Quelques jours même après les événements, les incidents là au Stade de France. Et ils nous ont assuré qu'ils ont tiré les bonnes conclusions de cette affaire. C'est pourquoi nous faisons pleine confiance aux autorités françaises et les athlètes se réjouissent déjà aujourd'hui d'être bienvenus dans une telle manière. Ça sera magique, ça c'est les mots.
Thomas Bach, interrogé par Jacques Vendroux et Cyril Delamorinerie, un entretien à retrouver en intégralité dans Europe 1 Sport dès 20h. Vous pourrez également suivre le match avancé de Ligue 1 en GOM, coup d'envoi à 21h. Les marchés financiers. Bonsoir Didier Hamot de boursier.com.
Bonsoir Hélène.
Forte hausse à Paris pour terminer la semaine.
Oui, ça va mieux. Fin de semaine, effectivement, plus favorable en bourse. Le CAC 40 a regagné 1,51% ce soir, 5762 points. L'indice d'inflation du mois de septembre en France, moins fort que prévu, à 5,6%, a contribué à calmer les marchés financiers. Le CAC 40 a quand même perdu 8% sur l'ensemble du mois de septembre. Ce soir, quelques valeurs industrielles en particulier en profitent pour reprendre un petit peu de hauteur. Nexans, plus 4,5%. Saint-Gobain, plus 4% à 37 euros. Somfy aussi regagne 4%, 95 euros. Ailleurs en Europe, ça va mieux aussi. Francfort remonte d'1,1% avec Madrid, avec Amsterdam. Milan reprend même 1,4%. Et donc le CAC 40 à Paris en hausse ce soir d'1,51%, 5762 points.
Merci Didier Hamot.
Merci à vous également, chère Hélène Zélani. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi.
Avec plaisir.
La météo. Avec Valérie Darmon. Valérie, on ne s'éloigne pas trop de son parapluie. Hein ?
Absolument, Raphaël. Sauf si on habite entre les Pyrénées orientales et les Alpes-Maritimes. Et encore que sur le littoral. Après le passage pluvieux de la nuit prochaine, vous allez vous réveiller d'ouest en est avec un temps couvert. Entre la Loire et la Garonne, des pluies intermittentes circulent, surtout le matin, devenant plus éparses dans l'après-midi de ce samedi. Des précipitations faibles à modérées se succèdent plus à l'est aussi, sur la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, le Massif central et Rhône-Alpes. Et c'est de la Bretagne au bassin parisien jusqu'en Normandie que le ciel sera le plus variable. Il faut dire que la pluie elle sera passée cette nuit, donc là, le ciel alternera entre cumulus et éclaircies. On a toujours quelques ondées qui se déclenchent le long de la Manche et de la frontière belge. Et puis le Mistral et la Tramontane faiblissent aussi dans leur domaine. Le vent d'ouest souffle assez fort sur les côtes varoises et la Corse, jusqu'à 90 km/h. Un mot des températures, entre 16 et 20 sur le quart nord-est, Auvergne-Rhône-Alpes, entre 19 et 23 à l'ouest et entre 22 et 26 près de la Méditerranée.
C'est bien noté. Merci Valérie Darmon. Prochain point météo à 23h sur Europe 1. À partir de 19h30, vous l'avez entendu dans le journal d'Hélène Zelani, nous consacrons une large page à la Russie, à la guerre en Ukraine. Nous serons avec Julien Théron, politologue, et Anastasia Kirilenko, journaliste russe, réalisatrice du documentaire Poutine, le parrain. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, 18h-20h, Raphaël Delvolvé.